et j'en prends ici l'engagement. Avec moi, l'État sera fort, il sera juste, il sera à sa place.
Il faut...
Allons enfants.
Il faut un véritable service public de l'habitat. Il faut imposer, au risque d'inéligibilité, aux maires UDF et UMP, la construction de logements sociaux sur le territoire de leur commune.
Il y a d'abord, bien sûr, la question de notre survie.
Il faut...
La question que l'homme se pose face au risque de son anéantissement.
Allons enfants de la patrie.
On l'a eu parce qu'il y a eu des grèves, parce qu'il y a eu des occupations d'usines, parce qu'il y a eu un mouvement d'ensemble et que la minorité de riches possédants a cru tout perdre.
Allons enfants de la patrie.
Eh bien moi je suis prêt à assumer la responsabilité de retourner tenir les barreaux.
Il faut...
Parce que je me bats pour des idées. Je me bats pour des idées pour faire triompher la démocratie. Et quand on se bat pour des idées, eh bien, on va jusqu'au bout.
Nous allons rendre compatible la modernité et le projet républicain français.
De la patrie.
En effet, mesdames et messieurs, depuis un siècle, la population mondiale a littéralement explosé, passant de 1 à 7 milliards d'habitants.
De la patrie.
Et je voudrais en venir maintenant naturellement à la campagne présidentielle. Pourquoi vous aviez pensé que je n'aborderais pas le sujet, peut-être ?
Allons enfants de la patrie.
Avis de campagne, aujourd'hui avec Alessi Del Umbria, auteur de l'Histoire universelle de Marseille, sortie aux éditions Agone. Alessi Del Umbria est très impliqué dans le milieu associatif marseillais, particulièrement dans son quartier de la Plaine, et ce, dans un esprit plutôt libertaire.
Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, nous revoilà commenter ce pseudo-événement que sont les élections présidentielles. Alors, les élections présidentielles fonctionnent uniquement sur le registre de la célébrité. Ce que j'appelle la célébrité, c'est la forme spectaculaire de la notoriété d'une personne face à l'obscurité de tous. Je dirais que les élections présidentielles, c'est un peu comme la Star Academy ou le Mondial de football. Ça fonctionne sur le vedettariat. Et ce vedettariat, il n'a de réalité que face à des foules solitaires qui se contentent de ratifier leur situation. Des foules solitaires où nul ne peut plus reconnaître ni être reconnu. Alors, on m'a demandé ce que je pensais de la candidature de José Bové. Je dirais que justement la candidature de Bové, qui est l'aboutissement d'une évolution du personnage José Bové depuis quelques années, consacre cet état de fait, ce fonctionnement médiatique qui engendre des vedettes, un système fondé sur la célébrité. Au départ, on a un paysan engagé dans les luttes du Larzac, dès les années 70, quelqu'un... qui s'est battu dans l'anonymat avec d'autres pendant au moins deux décennies contre l'extension du camp du Larzac, contre la politique agricole visant à la destruction des campagnes, etc. Et à l'arrivée, on se retrouve avec une vedette supplémentaire dans le cirque médiatico-politique. Je dirais que... Moi, ce qui me fait le plus de peine dans tout ça, c'est que finalement, Bové, qui s'était engagé dans la lutte anti-OGM aux côtés d'un certain nombre d'autres personnes, est devenu, à partir de l'affaire de Millau, une star de plus, l'invité des plateaux télé. On a mis en avant un personnage au détriment d'une dynamique collective. Parce que dans le procès de Millau, Bové n'était pas seul. Ils étaient quand même un certain nombre de gens, de paysans ou de néo-paysans comme lui. Et donc on a vu Bové apparaître de plus en plus systématiquement à la télé pour rabâcher les lieux communs de l'altermondialisme au détriment de cette dynamique locale et pratique, celle des paysans du Larzac qui avaient quand même réussi une chose très importante, à savoir à faire des questions agricoles, jusque-là apanage des syndicats corporatifs, de faire de ces questions agricoles une véritable question sociale, une question d'intérêt général, d'intérêt public. Et cela au moyen d'une dynamique collective. Bon, naturellement, Bové se prêtait par lui-même à une telle récupération médiatique. Il était proche intellectuellement des classes moyennes, c'est un néo-rural, il s'exprime comme d'ailleurs les autres candidats aux élections présidentielles sans accent paysan. Quand on passe à la télé, maintenant, il ne faut surtout pas parler avec l'accent local. Quoi. Ça marque mal, ça fait parpagnasse. Quoi, hein. Et donc Beauvais a toutes ces caractéristiques et donc il le prédisposait aussi à être mis en avant par les médias. Alors évidemment, on peut trouver sympathique qu'un individu qui a quand même payé de sa personne... ça n'a jamais été facile pour lui dans les années 70, dans les années 80, à l'époque où il se battait sur le Larzac, il a fait de la prison. Que cet individu, qui n'est membre d'aucun parti politique, qui n'est pas un politicien, soit candidat. Oui, mais tous ceux qui l'environnent, hein, tous ces gens issus du PC, de la LCR, de Attac, j'en passe, enfin tout... Tous ces vieux briscards de la politique politicienne, moi je pense pas qu'on fasse du neuf avec des matériaux recyclés. Et je regrette personnellement que Beauvais ait renoncé à son attitude, je dirais, anarcho-syndicaliste qu'il affichait au début à l'époque de l'affaire de Millau, lorsqu'il disait « voilà, moi je m'occupe des questions paysannes, je n'ai pas à me prononcer sur la politique politicienne ». Bon, maintenant, il a mis les deux pieds dedans. Je ne pense pas que ça fera avancer quoi que ce soit du côté de la mobilisation des gens sur le terrain concret des luttes sociales. Par contre, je pense qu'une fois de plus, la récupération médiatique a fonctionné... à plein régime, et c'est quelque chose qui est assez navrant. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois, où on parlera justement d'un contre-exemple qui nous vient du Mexique, lors des élections de 2006. Ciao, ciao.
C'était Avis de campagne avec Alessi Del Umbria. Retrouvez-le pour un autre avis dimanche prochain, 10h30.